Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, parler politique au travail. Je sais bien que le travail, c'est fait pour travailler, mais tout de même, une conversation animée, ça peut détendre, encore que, pas sur tous les sujets. En période d'élection, de manifestation ou de crise, peut-on vraiment partager ses opinions politiques avec ses collègues de boulot? Et si oui, est-ce plutôt convivial ou risqué? Nous en discuterons avec nos invités. En France, Jean-François Amadieu, sociologue du travail, bonjour.
Bonjour.
Vous avez notamment publié le livre noir des DRH et vous êtes vraiment spécialiste du monde du travail. François Hénius, bonjour.
Bonjour.
Vous conseillez des dirigeants d'entreprise,
hein,
PME ou filiales de grands groupes. Et puis, vous êtes également vous-même chef d'entreprise. Vous avez une petite entreprise de logistique. Alors, vous nous direz si, entre deux envois de marchandises, on peut parler de l'élection présidentielle. Nous regarderons aussi de l'autre côté de l'Atlantique comment la conversation politique s'invite dans les entreprises américaines et évidemment dans les bureaux des fonctionnaires. L'ambiance est plus que tendue en ce moment. Et chez vous, les voisins, nous avons vraiment besoin de vos témoignages. Comment la politique s'invite sur votre lieu de travail? Avec quelles conséquences? Disputes, embrouilles ou trouilles au ventre? Appelez-nous dès maintenant. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71. Que vous soyez fonctionnaire dans le secteur privé ou dans l'informel. Et puis en fin d'émission, on parlera de la pétition en France pour lutter contre les crimes sexuels sur les enfants. Des milliers de signatures veulent changer la loi en allongeant les délais de prescription pour ces crimes. Ça aussi, ça peut être un sujet de discussion d'ailleurs entre collègues, mais sûrement pas aussi chaud que le « pour qui tu votes » ou « le président X doit-il dégager ou non ?» Je ne pense bien sûr à aucun pays en particulier. Allez, vous nous appelez 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques commentaires sur les réseaux sociaux, bien sûr. Olivier Tayaoundé, il nous dit qu'au Cameroun, parler de politique au bureau ou ailleurs, c'est franchement risqué. Il faut toujours épurer, édulcorer notre argumentaire de peur qu'un homme en civil t'écoute. Il y a toujours une épée de Damoclès qui plane sur nos têtes. Epaphras Etanjamena, il nous dit qu'au Tchad, parler politique au bureau est source de problèmes avec la multiplication des agents de l'Agence Nationale de Sécurité, la ANS, qui renseignent et font des rapports sur tous les citoyens tchadiens présents dans leur champ. Il y a une retenue qu'on ne constatait pas auparavant, nous dit Epaphras, chez les travailleurs tchadiens. La crainte de perdre son emploi, déjà, de se retrouver en prison pour avoir exprimé ses opinions politiques. Et en plus, tu sais que comme ta famille dépend de ton boulot, évidemment, on réfléchit avant de discuter. Marius, également, Anjamena, nous dit que les gens confondent débat politique constructif et critique d'un programme politique, opposition et rébellion. Parler politique au boulot, c'est vendre son âme au diable ou signer soi-même son mandat d'arrêt. Voilà, on peut vous... Franchement, les messages sont tout de même assez explicites. Vous nous appelez, on va donner la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Jonas, vous êtes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Jonas, bonjour. Alors j'ai lu quelques messages, vous, quel est votre sentiment? Comment ça se passe au quotidien pour vous sur votre lieu de travail quand vous parlez politique?
C'est exactement comme les autres qui ont parlé du Tchad et de l'autre pays, je ne me rappelle plus très bien.
Le Cameroun.
Le Cameroun, voilà. En fait, dans notre pays, c'est dangereux de parler politique dans les milieux de travail parce qu'on ne sait pas à qui on parle et tous les milieux sont infiltrés. Donc, vous pouvez vous retrouver facilement en prison ou même un peu plus loin, c'est-à-dire on peut vous envoyer à la patresse.
Y a un message d'un compatriote chez vous, Marlon, qui est également dans la même ville que vous, la deuxième ville de RDC, Lubumbashi, et qui nous dit « parler politique au boulot, c'est du suicide, surtout quand on ne partage pas l'opinion de son patron. En RDC, la politique a atteint un niveau d'ingérence incontrôlable, elle est omniprésente. » Vous avez le sentiment, en effet, qu'il y a quelques années, on pouvait encore assez facilement avoir une conversation politique sur son lieu de travail?
Oui, on pouvait, mais avec le climat politique qui est en train de se déliter, c'est presque plus possible. Vous risquez, on a des familles qu'on doit nourrir, donc on préfère se taire.
Alors, quelle est la sphère où on peut ne pas se taire finalement? Si on n'en parle pas au boulot, on en parle où?
Mais chez soi, à la maison, avec sa femme et ses enfants, et puis ça s'arrête là.
Ah oui, c'est ça. Oui, ça reste
oui.
Un cercle très intime. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Jonas. On a un autre message de Babacar à Dakar, au Sénégal, qui nous dit « Moi, je préfère garder mes opinions politiques pour moi. On ne sait pas à qui on peut faire confiance. » Voilà, il nous appelle bien, il nous poste bien ce message du Sénégal. Et bien sûr, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
Milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Jean-François Amadieu et François Hénius, je vous cite une étude de l'organisme YouGov. Je ne sais pas quel crédit on peut apporter maintenant aux organismes d'études et de sondages, mais qui dit ceci. 73% des Français parlent de politique sur le lieu de travail. La majorité des sondés assurent qu'ils ne mentent pas sur leurs convictions. On n'a que 12% des personnes interrogées qui ne disent pas ce qu'elles pensent réellement. Mais on apprend quand même que 2 jeunes salariés sur 10 mentent sur leurs opinions en espérant avoir une augmentation. Bon, voilà, ça reste un sondage. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre, François Hénius?
Je pense, d'abord, pour intervenir un peu sur tout ce qu'on vient d'entendre, on a une chance en France, c'est qu'on a la possibilité de parler politique au travail. Alors, légalement, bien évidemment, mais aussi ça fait partie de nos habitudes. On est des politiciens nés.
On reste un citoyen, c'est ce on que reste, dit le droit.
Hein. On reste un citoyen, ça c'est le droit, voilà, tout à fait. Et je pense que les Français aiment parler politique. Les Français aiment la politique. Alors après, ce qu'ils voient actuellement n'est pas forcément ce qu'ils aimeraient voir, mais ils aiment la politique. Et quand 73%, si j'ai bien entendu, disent qu'ils aiment parler politique, je pense qu'on est dans la vérité. Et tout le monde aime. Alors après, ce qui me dérange un peu, c'est les gens qui imaginent qu'en donnant d'autres opinions, ils auront une augmentation ou ils seront mieux gérés, différemment gérés. Je suis pas complètement certain de cela. Je doute un peu que ça ait un impact fort sur l'évolution professionnelle. Bon, après, si on est Philippe Poutou et que notre dirigeant est à l'autre bout de l'échiquier, peut-être, mais bon, tout le monde n'est pas aussi extrémiste.
Oui, un pro Mélenchon qui travaille dans la finance, il va peut-être pas forcément, mais est-ce qu'il en existe vraiment? Je ne pense pas.
Je ne pense pas, je ne pense pas.
Jean-François Amadieu.
Oui, sur cette affaire de ceux qui dissimulent leurs opinions politiques ou leurs préférences syndicales pour faire carrière ou juste pour garder leur emploi, ce chiffre de 20% hein, de ces jeunes, c'est ça, ou de 25% n'est pas très surprenant. Je pense que c'est évidemment dans nos pays nécessaire. Alors, peut-être pour rappeler quelques évidences, évidemment, on n'est pas, c'est pareil en Europe, on n'est pas un pays dans lequel on risque d'être en prison ou assassiné si on parle politique. Par contre, premièrement, on dégrade fortement ses chances d'être recruté. Alors, comment on le sait, il y a eu un sondage qui a été fait, pas un sondage, un testing par envoi de CV qui a été fait en Belgique. Nous-mêmes, je l'ai fait, on l'a fait aussi en Grande-Bretagne, sur la question des proximités politiques ou syndicales. Et par exemple, nous, on a envoyé des CV pour des postes de commerciaux dans le secteur agroalimentaire en France. Et on a mis sur les CV qu'il y avait des expériences professionnelles. Par exemple, un jeune avait fait un stage, il avait travaillé au service communication, mais pour le site web de Sud Étudiant. C'est pas le NPA, c'est Sud Étudiant. Oui, donc pour être clair, classé à gauche, voire à l'extrême gauche, qui est quand même identifié comme étant contestataire. Donc ça signale a priori, même si le jeune indique que c'est un jeune étudiant, et donc dans son CV, on va voir que ce sont des compétences qu'il a développées, mais néanmoins avec une orientation politique. Ça dégrade considérablement, à CV égal, les chances, bien sûr, d'être recruté. Donc, les employeurs, on le sait, vont s'inquiéter de ça. Ensuite, il y a eu des études sur les salaires. Alors, je n'en connais pas qui aient porté sur les opinions politiques et l'effet que ça a sur les salaires ou les carrières que vous faites. En revanche, il y en a sur la proximité syndicale.
Voilà, sur les carrières syndicales, il y a
voilà,
des...
Bon. Oui. Alors là, on en a, il y en a eu plusieurs qui ont été faites en France, c'est des études d'économistes, et si vous voulez, la proximité syndicale, l'engagement syndical, a un effet, évidemment, sur les salaires, négatif, en particulier lorsque votre proximité, c'est avec la CGT, par exemple, dans le cas français, donc une organisation classée plus à gauche ou plus contestataire que d'autres. Donc, il y a bien un effet toutes choses égales par ailleurs sur les salaires. Donc, si vous voulez, les faits, et puis bien sûr, la question du maintien dans l'emploi. Donc, effectivement, Je vais prendre aussi un dernier exemple et j'ai fini. Il y a une étude quand même, c'est toujours très surprenant. Quand vous regardez les enquêtes du défenseur des droits menées chaque année en France, il interroge les gens qui cherchent un emploi. Et on leur demande, dans un entretien d'embauche ou un concours administratif, est-ce que parfois on vous pose des questions sur tel ou tel sujet ? Et vous apercevez que, je crois, à la dernière enquête, pour 7% des demandeurs d'emploi, 7% des demandeurs d'emploi disent « on m'a interrogé sur mes opinions politiques lors d'un concours administratif ou d'une embauche ». Alors, évidemment, je précise tout de suite que c'est naturellement interdit, mais c'est classique. Mais moi, je l'ai connu. Je me souviens d'avoir connu un recruteur qui recrutait dans une multinationale française, qui recrutait il était chargé de recruter des conducteurs de bus pour les voyageurs. Et en fait, il trouvait astucieux de poser la question suivante au candidat. Il m'avait raconté. Il me dit, je leur demande qui est le secrétaire général de la CFDT, d'un syndicat. Si la personne répond juste, il ne le prend pas. Parce que ça veut dire que c'est suspect. Comment il connaît ça ? Un peu comme si vous... Voilà. Donc, le candidat malin doit comprendre qu'il faut qu'il fasse l'imbécile. Mieux vaut être inculte, ne pas lire le journal, ne pas s'informer politiquement et ne rien dévoiler sur
toutes ces Le nom du Premier ministre actuellement, à mon avis, beaucoup ne le connaissent pas.
Français, alors, j'entends. Ceci, on est quand même dans une période assez particulière. L'élection présidentielle passionne les Français plus que d'habitude, probablement aussi parce que jamais l'issue du scrutin n'a été aussi incertaine. On en parle en famille, c'est normal, mais au boulot, traditionnellement, on ne se raconte pas pour qui on va voter. Mais dans notre culture. De même qu'on ne parle pas de son salaire, on ne parle pas tellement de sa religion non plus.
C'est ça.
Oui, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de salaire, on ne parle pas de politique. En même temps, on passe notre vie à parler de politique. Hein. Soyons clairs dans les couloirs. Alors, je suis tout à fait d'accord sur...
On ne se dit pas pour qui on va
voter. On ne se dit pas pour qui on vote, mais par contre, on parle politique. Alors, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne va pas donner, on ne va pas dire je suis pro-ci ou pro-ça. Par contre, on parle politique. Et aujourd'hui, dans cette campagne qui est vraiment différente, je pense, parce que 2012, et c'était le début des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle qui tombe toutes les 10 secondes sur nos smartphones, chacun pour ceux qui
en ont. Vous êtes en train de nous dire que vos salariés sont branchés sur les réseaux sociaux, sur leur lieu de travail, au lieu de travailler, et que donc...
En théorie, non. En pratique et dans la vraie vie, c'est quand même comme ça. Enfin, je veux dire, après, vous pouvez créer toutes les règles que vous voulez.
Et nous, on est payés pour le faire, alors donc évidemment, on n'a pas de problème.
ça vous aide. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, clairement, les gens sont connectés en quasi-permanence, ils ont de l'information, au pire, ils l'ont à la pause, ça veut dire qu'ils l'ont quand même 4 fois dans la journée, et ils vont échanger sur ce sujet. Et tous les sujets sont bons, que ce soit le ralliement d'un tel ou d'un tel, ou le prix du tailleur d'un tel ou d'un tel, tout le monde en parle. Donc la question, c'est, à la différence d'autres pays, hein, j'entends bien nos voisins qui nous disent d'autres choses, mais soit on l'encadre et on le gère, soit on le laisse partir à volo. Et moi, j'ai tendance à croire que partir à volo, c'est toujours un risque important. Donc, je préfère qu'on encadre un peu ces échanges de manière sans formalisme absolu. Mais je pense qu'on peut en échanger. Et je pense que si on est dirigeant et qu'on aborde ces sujets-là, non pas via le candidat, mais via les opinions, via les contextes politiques, on doit pouvoir aborder un certain nombre de choses.
Oui, mais alors justement, aborder quoi ? Aborder les thèmes politiques dans la campagne qui ont trait à l'entreprise, à l'économie, par exemple ?
Je pense que le plus simple, c'est quand même de démarrer par l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a quand même, en tant que dirigeant, ou en tant que patron de son service ou de sa filiale, une responsabilité vis-à-vis de son entreprise, vis-à-vis du business de son entreprise. Je discutais hier à midi avec un patron du MEDEF, d'un département français, du syndicat patronal, et avec qui j'expliquais que j'allais participer à cette émission. Et il me dit, moi, tu vois, la sortie de l'euro, ça pose des problèmes colossaux à mon entreprise. Et pendant 5 minutes, il m'a expliquer les problèmes que ça générait dans son entreprise potentiellement. Avoir ce genre d'échange avec ses collaborateurs, ça ne veut pas dire qu'on leur dit de voter autre chose. On leur dit simplement, voici les conséquences pour mon entreprise. En aucune... C'est pas une vision française, c'est une vision entrepreneuriale. Et je pense qu'avoir ce sujet, c'est aussi éclairer nos collaborateurs que y a des conséquences sur toutes les choses et que le gérer, le mener... Alors, pour répondre concrètement à votre question, je pense que les sujets de l'entreprise sont quand même des sujets importants. Si on prend le temps de travail, la durée du temps de travail, c'est très important sur une organisation et l'aborder n'est pas forcément négatif. De toute façon, on va l'aborder dans 8 mois.
Ça veut dire que le sujet politique est abordé sous l'angle quel est le programme qui peut améliorer ma petite vie, notamment au travail, ou plutôt quel est le programme ou le candidat qui peut améliorer notre vie en société comment...
Non, là, il y a un problème dans ce que je viens d'entendre sur la préconisation qui consisterait à dire que le chef d'entreprise serait légitime à venir organiser peut-être des conférences ou des conférences.
C'est
ou
pas
venir
ce que
expliquer.
J'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit.
Tout comme bon, l'était autrefois.
Si, parce que j'ai cru comprendre que.
Bah, si, on avait un peu cette impression-là.
J'ai un peu compris ça, ce que j'ai voulu dire.
Tout comme l'était autrefois le prêtre de la paroisse.
Je prenais un exemple. Je prenais un exemple qui est celui du patron de Semedef. Mais l'objectif, c'est. Je pense que les sujets qui peuvent être assez faciles à aborder sont ceux qui ont des conséquences sur l'entreprise.
Grosso modo,
par exemple, sortie de l'euro. Donc
mais sortir ou rester, je pense que c'est aborder les deux sujets.
Concrètement, le chef d'entreprise organise une conférence et vient expliquer que la sortie de l'euro aurait tel ou tel effet sur son entreprise.
Une traduction, si vous votez Marine Le Pen, vous allez perdre votre boulot parce que votre entreprise a cassé la figure.
En fait, c'est ça.
Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut aborder, on peut... générer un échange sur ce sujet, sur le fond. Et ce n'est pas au chef d'entreprise d'aborder le sujet, forcément, c'est au chef d'entreprise de gérer ce débat, cet échange sur le fond. Et qu'on ait des gens qui pensent que... Alors, je vais reprendre la sortie de l'euro, puisque c'est l'exemple, mais ça pourrait être le temps de travail, ça pourrait être autre chose. Alors, la sortie de l'euro, il n'est pas marqué que par Marine Le Pen, hein, je vous le rappelle quand même. Aux deux extrêmes, on préconise la même chose. Cette logique-là, c'est de dire, voilà les conséquences économiques pour mon entreprise, ce qui n'est pas le cas, forcément, mais en même temps... quel serait l'avantage d'en sortir ? Enfin, avoir un débat, un échange sur le fond, pas une conférence. C'est là où vous pensez qu'on peut avoir qu'une conférence. On peut aussi échanger avec nos collaborateurs.
J'ai ajouté conférence débat. Non, mais parce que quoi, ça se ferait sur un intranet, sur des forums de discussion, ou ça se fait dans... Comment on peut le faire dans une entreprise ? On va réunir les gens dans une grande salle ?
Je pense que... Alors d'abord, sur des unités relativement modestes. Hein, c'est clair que si vous êtes président de chez Peugeot, M. Peugeot ne va pas réunir l'ensemble de ses collaborateurs. On est bien d'accord. Par contre, on peut avoir en proximité, en management de proximité, des échanges. Alors ça peut être en effet sur un principe autour d'un café. Ça peut être... Je pense qu'il faut structurer... C'est-à-dire que si on ne le structure pas, c'est une certitude, ça va nous échapper.
Ça, c'est votre point de vue, mais globalement, les managers, les dirigeants d'entreprise, enfin, tout ce qui peut diviser inquiète en général la hiérarchie d'une entreprise. Non, Jean-François Amadieu, vous qui êtes sociologue du travail.
Oui, mais bien sûr, mais si vous voulez, il y a une... Comment dire ? Dans le passé, en principe, si vous voulez, une entreprise, c'est comme l'école, il y a un principe de neutralité. Ça devrait être le cas. Il se trouve que depuis plusieurs années, c'est de moins en moins le cas, tant en France qu'à l'étranger. Je crois qu'on parlera des États-Unis, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises, on le sait, revendiquent de plus en plus, les chefs d'entreprise revendiquent d'être des acteurs politiques. Ils revendiquent d'avoir des positions sociales et sociétales et dans les débats de société. Ils revendiquent d'avoir une responsabilité sociale.
Oui, ce n'est pas la même chose que d'être un acteur politique,
société. Si, totalement, parce que le problème, mais c'est ça qu'on a comme difficulté, c'est que et aujourd'hui on en voit de plus, je vais en prendre quelques exemples, si vous voulez, et c'est pour ça qu'il y a une difficulté, c'est que de plus en plus les entreprises prennent des positions sur toute une série de sujets qui sont des sujets politiques et sont des sujets de société. Je vais prendre mais qui sont dans les programmes politiques. Ce que je veux dire, c'est que si un chef d'entreprise a des convictions qui sont les siennes sur la question de l'orientation sexuelle, il peut ou du mariage, etc. Il peut avoir ses positions.
On n'a pas entendu beaucoup de chefs d'entreprise prendre des positions publiques. De manière massive
mais
quand
si,
même.
Mais si, parce que le mouvement vient des États-Unis, il faut le comprendre. Beaucoup de firmes américaines aux États-Unis, il ne faut pas le méconnaître. Vous avez toute une série de firmes qui ont des accords, qui passent des marchés avec des fournisseurs, des firmes dirigées LGBT.
On va poursuivre la discussion. Hein. On est en pleine période électorale en France, mais ailleurs aussi, comment ça se passe. Dites-nous, les voisins et les voisines, comment la conversation politique s'invite sur votre lieu de travail. Et ça n'est pas une discussion de café du commerce. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Parler politique au boulot avec les collègues, est-ce convivial ou risqué? Ou comment la conversation politique s'invite sur votre lieu de travail à la faveur des élections, des crises, des grandes manifestations? Tu votes pour qui? Tu soutiens qui? Tu penses quoi? Autant de questions qui peuvent mettre du piment dans un morne après-midi de labeur. Quoique, vos avis sont extrêmement partagés sur le sujet et nous éclairent sur la liberté d'expression finalement dans votre vie quotidienne. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Un auditeur de Bamako nous poste ce message ici. Pour parler politique au travail, il faut savoir quoi dire, mais il faut surtout se limiter si tu ne veux pas te trouver dans un 4x4 blindé au milieu de nulle part. Nos invités en studio, Jean-François Amadieu, sociologue du travail, et François Hénius, qui conseille des dirigeants d'entreprises, PME ou filiales de grands groupes, et également chef d'entreprise lui-même d'une entreprise de logistique.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Parler politique au travail, comment ça se passe aux États-Unis? Eh bien, nous sommes en ligne avec notre correspondante à Washington. Bonjour Anne-Marie Capomaccio.
Bonjour Emmanuel.
Comment a évolué l'art de la conversation politique entre les citoyens depuis l'élection de Donald Trump, donc?
Je dirais qu'ici, la conversation politique au bureau est, ou plutôt était naturelle, mais nous reviendrons sur cette parenthèse dans un moment. Il faut dire qu'aux États-Unis, presque tous les citoyens sont enregistrés comme démocrates ou républicains. On n'a appartient forcément à un des deux grands partis, c'est inscrit sur la carte d'électeur, et en fait vos collègues de travail savent très bien si vous votez à droite ou à gauche, ça ne pose pas de problème, on en parle naturellement, on échange sur les mérites comparés des candidats pendant les primaires, et on plante dans son jardin des petits panneaux publicitaires rouges ou bleus pour accompagner la campagne du candidat de son choix. Je vis à Washington dans un quartier qui est plutôt résidentiel, plutôt bourgeois, et je sais pour qui ont voté chacun de mes voisins, et ce n'est pas du tout un sujet tabou,
ah oui.
Pas du tout.
Est-ce que cela signifie que le secret de l'isoloir donc n'existe pas finalement?
Non, le secret de l'isoloir existe, et puis on peut très bien être républicain et voter démocrate, vice-versa. Ce que cela signifie à mon avis, Emmanuel, c'est que nous sommes culturellement très différents des Américains. Je dirais que les Américains parlent politique comme ils parlent d'argent, sans tabou, comme nous le disions à l'instant, et vraiment sans ressentir cette conversation comme une intrusion dans la vie privée.
Mais alors, vous disiez, Anne-Marie Capomaccio, au début de cet entretien, la conversation politique était jusque-là naturelle. Alors, qu'est-ce qui a changé en partie? Particulier au boulot d'ailleurs.
Mais je dirais que c'est l'effet Trump. Je suis à Washington depuis 4 ans, j'ai vécu à New York aussi auparavant. Je n'avais jamais vu de fâcherie sur les élections. Cette année, c'est manifestement plus compliqué. Dans le Maryland, qui est un état dans la banlieue de Washington, hein, dans le Maryland par exemple, certains comtés ont voté Donald Trump en majorité. Une restauratrice que j'ai appelée, qui a 3 employés dans une petite ville du Nord, me disait que tous, comme elle, ont voté pour le président actuel. Ils s'en réjouissent entre eux, mais ils ont cessé d'en parler devant les clients car certains se sont fâchés. Et ça, c'est nouveau, m'a raconté Molly. Elle me dit, jusque-là, nous en parlions très librement, même avec ses clients qui pouvaient voter démocrate. Elle est républicaine.
Ouais, et on pouvait garder les clients du restaurant, d'ailleurs. Donc.
Aucun problème jusque-là. Et le chef de la campagne Trump, dans le même bourg du Maryland, Tim Craig, il travaille pour une société de conseil informatique. Il me disait que certains de ses collègues n'ont pas digéré l'élection, mais il est persuadé, lui, que lorsqu'ils verront les bienfaits de la politique de Donald Trump, eh bien, ils comprendront. Il reconnaît toutefois que jamais en 30 ans cela n'avait été aussi tendu. Et il me raconte que sur le campus où ses filles sont étudiantes, elles ont été agressées, alors je le cite, par des gauchistes, ce qui n'était jamais arrivé lors des autres scrutins.
Et ça se passe comment à Washington, une ville démocrate, et le siège du gouvernement, on est vraiment là dans la ville de l'emploi public.
Oui, dans la capitale, c'est quand même vraiment différent. Avec le système des dépouilles habituelles aux États-Unis, tous les chefs changent, et les démocrates, puisqu'ils étaient démocrates nommés par Barack Obama, sont remplacés par des républicains, pro-Trump, forcément, dans toutes les administrations. Donc, en fait, vous ne vous posez pas la question, Emmanuel, vous ne vous posez pas la question de l'appartenance politique de votre supérieur hiérarchique qui vient d'arriver. Alors là aussi, c'est tendu, m'ont raconté des fonctionnaires. Ils me disent, d'habitude, nous commentons tout, mais cette fois, nous sommes tétanisé, je les cite. Les personnes à qui j'ai parlé sont démocrates, bien sûr. Washington est une ville démocrate à plus de 90%. Et elles m'ont raconté que les nouveaux chefs leur ont immédiatement demandé de cesser de critiquer la politique du gouvernement sur les réseaux sociaux et même sur leur compte personnel. Ils ont reçu des notes de service et ils affirment qu'ils n'osent plus parler politique au bureau. Alors, selon moi, c'est vraiment un changement de culture, mais il t'a parié que ça durera juste le temps de cette administration qui est particulière.
Nous sommes bien aux États-Unis dans une grande démocratie tout de même. Merci beaucoup Anne-Marie Capomaccio. Vous continuez de nous appeler les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. À quoi ressemble la conversation politique chez vous au boulot? Appelez-nous.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Jean-François Amadieu, François Hénius, alors que vous inspire la situation aux États-Unis, Jean-François Amadieu?
Oui, on voit bien la différence avec la France, mais c'est parce que vous savez que l'échiquier politique était traditionnellement très différent, avec deux partis finalement dont les idées ont souvent été très très proches de la réalité. Alors qu'en France, tout le monde connaît la situation, une extrême gauche qui parfois a pu être puissante, on voit aujourd'hui les scores de Mélenchon par exemple encore, il en relève peut-être un petit peu, et puis dans d'autres temps ceux du PC. Et puis, vous avez, il y a toujours une extrême droite aussi. Mais ça, dans les pays européens, dans les pays latins du sud de l'Europe, c'est classique. Donc, et les Américains n'ont jamais connu ni le communisme, ni, je dirais, des courants d'extrême droite vivaces.
Mais ce qui n'empêche pas que le courant, donc, que la discussion soit très tendue.
Bien sûr, mais depuis Trump, en effet. Depuis Trump, effectivement, parce que c'est clivant, parce qu'il y a du débat, que ça pose des questions. Donc, c'est pour ça que le contexte a complètement changé. Mais je voudrais dire que le fait que les patrons, mais d'un autre côté les organisations syndicales s'engagent, et aux États-Unis ils le faisaient d'ailleurs, les organisations syndicales, ou certains syndicats s'engageant parfois auprès du Parti démocrate ou républicain, ça dépendait d'ailleurs. Mais si vous voulez, ces engagements des patrons, et on a vu dans la dernière campagne d'ailleurs que les entreprises se sont engagées très fortement pour Hillary Clinton par exemple. Donc effectivement, là on voit bien que je ne pense pas que les entreprises doivent jouer à ce jeu-là. C'est pour ça que je crois à la neutralité. Beaucoup ont été choqués quand Parizeau, qui dirigeait le MEDEF, avait écrit un ouvrage pour critiquer Marine Le Pen, le Front National, etc. Est-ce que les organisations syndicales, est-ce que les organisations patronales, est-ce que les patrons eux-mêmes, à titre individuel, doivent prendre des positions politiques? Ça, on peut le discuter sur toute une série de sujets.
Vous estimez est-ce que c'est une tendance dangereuse, en fait?
Mais bien sûr, c'est dangereux parce qu'ils le font énormément. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Sur la côte ouest des États-Unis, vous avez de grandes firmes qui ont quand même, il y a un an ou deux, décidé de prendre des positions très très fortes en finançant à $20,000 le fait qu'une femme faisait congeler ses ovocytes, qu'on facilitait le recours à des moyens de procréation assistée, PMA, GPA, etc. En France, les règles de bioéthique l'interdisent. Dans une série de pays, et quant à l'échelle internationale, vous avez des pays qui perçoivent de façon très différente, au fond, toute une série de sujets de société comme cela. Mais est-ce que, quand une entreprise se mêle de venir prendre des positions, financer, agir, elle pense que c'est de son rôle de faciliter la GPA.
Transférer une vision libérale de l'économie à une vision libérale de la société.
C'est ça. Exactement. Mais ce qui, dans beaucoup de pays, est perçu de façon très différente. Dans beaucoup de pays, les entreprises et les sociétés n'admettent pas de la même manière les mêmes choses. Et il suffit de comparer les États-Unis et la France. Nous avons en France des règles de bioéthique qu'on ne pourrait pas faire. Mais des firmes qui se disent, c'est normal, parce que je suis une firme de la nouvelle technologie, et parce que moi je suis un patron, je trouve ça sympa, c'est ma vision de la société, du coup je vais le faire. Là, il y a quand même des questions à se poser. Je ne crois pas que ce soit le rôle des patrons. C'est préjudiciable
pour la liberté d'opinion et d'expression des salariés.
C'est un problème parce que les gens peuvent ne pas être d'accord, mais les gens peuvent être heurtés par ça en interne.
Non, mais que les gens soient heurtés en interne, je n'en doute pas. Ce qui me dérange, c'est que quelque part, on a intrigué aux citoyens dirigeants d'une entreprise la possibilité d'avoir une opinion alors qu'on ne la nie pas à la CGT ou à la CFDT. Alors ça me dérange un peu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dirigeant d'entreprise, on se doit à la neutralité. C'est ce que vous avez dit. Et ça me dérange.
Les organisations syndicales aussi.
Le patron est un citoyen comme un autre, comme les autres salariés.
Mais les organisations syndicales aussi. Et depuis très longtemps, cette question a été posée. Elle a été y compris dans la jurisprudence. C'est un débat qui revient souvent. Les organisations syndicales ne devraient pas, d'ailleurs elles évitent de le faire, et on sait qu'il ne faut pas qu'elles donnent des consignes de vote au moment des élections, ce qu'elles ne peuvent pas parfois elles s'empêchent pas de le
vous
faire.
Vous parlez de neutralité, vous ne parlez pas de consignes de vote, ce qui n'a strictement rien à voir. Que le dirigeant ne donne pas de consignes de vote, je suis en phase avec vous. Mais on ne peut pas dire neutralité et consigne de vote, c'est absolument pas la même chose. Neutralité,
c'est le je n'entre pas dans le débat. On peut avoir un débat sur la suppression de l'impôt sur la fortune, par exemple en entreprise, ça vous semble qu'un patron prenne position et que des salariés ne soient pas d'accord, c'est plutôt souhaitable ou pas, par exemple ?
Non, moi je pense qu'il ne faut pas transformer les entreprises en lieux dans lesquels on va se mettre à organiser ce type de débat.
Mais le problème, c'est que ces débats ont lieu. Le sujet, c'est que le débat a lieu. Et quand le débat a lieu...
Dès qu'un message tombe sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous nous disiez.
Mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment, le problème, c'est que si le débat a lieu, il vaudrait peut-être mieux, en tant que dirigeant, être conscient que ce débat a lieu et que j'essaye que ça se passe dans de bonnes conditions et pas à mes conditions intellectuelles, mais que j'organise cet échange plutôt que de le laisser. Alors là, du coup, à des syndicats professionnels, parce que vous inquiétez pas, ça va s'organiser quand même. Donc je pense que l'acteur dirigeant a une possibilité de gérer l'organisation de ce débat.
Je vous lis le message de Gildas à Cotonou, nous dit-il, le monde s'arrête du lundi au vendredi à 10h dans les bureaux pour suivre la revue de presse à la radio et s'en suivre les commentaires politiques. Donc comme vous le dites, le débat se fait quoi qu'il arrive. Ou Brice en Côte d'Ivoire nous dit, si tu en parles, il faut être sûr de celui avec lequel tu parles, qu'il soit du même bord politique que toi, sinon tu risques ton poste, donc on préfère se taire. Alors il ne nous dit pas s'il est fonctionnaire ou s'il travaille dans une entreprise privée, ou encore Herman est au Congo-Brazzaville et il nous dit « Ma famille était victime de cette situation. Mon cousin vit à Brazza. Ils ont entamé un débat lors du référendum d'octobre 2015. Et le lendemain, un 4x4 avec des hommes en civil sont arrivés à la maison et l'ont interrogé sur une soi-disant disparition de matériel informatique. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour nous parler de ces conversations politiques sur votre lieu de travail, si elles ont lieu ou pas. Nous donnons la parole à Guy Guylaine qui est au téléphone avec nous à Kinshasa. Bonjour Guylaine.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour la radio du monde.
Merci d'être en ligne avec nous, vous êtes la bienvenue. Vous êtes, je crois, vendeuse en pharmacie et également infirmière à l'hôpital. Hein. Vous avez deux emplois, c'est bien cela.
Oui.
Alors dites-nous si vous parlez politique au travail.
Oui, j'en parle.
Oui, vous êtes en direct Guylaine, nous vous écoutons.
Oui, j'en parle parce que ici, chez nous au Congo, les femmes ne se donnent pas du tout à la politique. Donc, voir une femme qui parle de la politique, c'est quelque chose de grand. Parce que souvent, les femmes qui parlent de la politique à la radio, à la télévision. Mais, dans un milieu urbain ou culturel,
Guylaine, je suis désolée, la ligne téléphonique s'est énormément dégradée. Malheureusement, nous sommes tributaires de ces lignes téléphoniques. Mais je voudrais tout de même relayer votre message qui est intéressant parce que vous avez dit au Standard que finalement, comme vous êtes une femme, vous pouvez davantage parler politique parce que souvent, les femmes ne s'intéressent pas à la politique et n'ont pas de pouvoir politique. Donc du coup, finalement, ça vous donne une plus grande liberté. Votre message a été très intéressant et merci d'avoir été en ligne avec nous. Jean-François Amadieu et François Hénus, vous souhaitez...
Je pense, d'abord, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vivent dans un autre pays où on n'a pas le droit de le faire. Et ce qui me dérangerait, c'est que là où on a le droit de le faire, on s'interdise de le faire. Donc moi, je pense qu'on est en France, on a cette chance, on est en Europe, dans une organisation relativement démocratique, quoi qu'on en dise. Et j'imagine que le lieu de l'entreprise est quand même un lieu de vie important. Et si, je reviens sur ce que je disais, si je laisse en tant que dirigeant les choses se faire, je pense qu'elles peuvent déborder. Là, le fait de créer ou un after work ou un café...
Déborder
ou...
de quelle manière
hein? C'est-à-dire qu'à un moment, enfin, on a connu c'est-à-dire des affrontements forts.
Créer des scissions qui seraient préjudiciables pour la bonne marche de l'entreprise,
pour la bonne marche de l'entreprise, soyons
clairs. Lui, je ne lui parle plus, je ne le supporte pas depuis que je sais qu'il vote pour un tel, c'est
pour
ça.
Pour un tel. Mais comme ça va... Enfin, potentiellement, ça peut arriver, je préfère être personnellement conseillé à mes clients de dire attendez, revenez sur le fond et échangez sur le fond. Je n'ai pas dit de donner son opinion et encore moins des consignes de vote. Enfin, j'espère Jean-François que personne Amadou. Ne donne de consigne de vote sur ce point.
Non, mais il faut se rendre compte aujourd'hui que quand on aborde les sujets de politique, on ouvre des débats qui vont être très difficiles à gérer et que peut-être il est plus sage d'éviter dans des contextes professionnels. Je vais prendre un exemple, la question du fait religieux. Alors on peut toujours dire, on va discuter de ce point et réunir les collègues qui ont telle ou telle orientation ou conviction religieuse et puis se mettre à discuter ensemble. Peut-être, mais il faut bien réaliser que là, il y a vraiment des convictions qui vont être... Je ne sais pas si ça va se prêter vraiment à des échanges et si ce sera fructueux et si ça, c'est possible. Voilà, c'est la question que je pose sur la question religieuse.
Parce que les débats s'annoncent plus violents pour cette campagne.
Parce que les débats se sont...
Plus clivés, plus clivants.
Bien sûr, c'est clivant. Les questions d'immigration, les questions de port de signes religieux, les questions tout simplement des convictions religieuses, la question des... Vous savez, j'évoquais tout à l'heure les questions de société sur les règles de bioéthique, sur la reproduction, sur les questions d'orientation sexuelle, sur toute une série de sujets, si vous voulez. Nous savons que les choses sont devenues tendues. On l'a vu en France, pour ça je prenais l'exemple de la question du mariage, mais si vous voulez, et même dans le débat politique aujourd'hui, on sait très bien que ces questions sont posées sur tous les chiquets politique. Donc ces questions sont des sujets sensibles, de société. Et effectivement,
donc comme ils sont sensibles, il ne faut pas en parler.
Au fond, comme on le disait dans le passé, dans les familles, on évite de parler de religion et de politique pour ne pas gâcher les déjeuners. C'est, au fond, cette vieille préconisation qui s'appliquait au repas de famille, est-ce que dans l'entreprise, elle n'est pas sage également ? On a d'autres
En même temps, est-ce que ces discussions politiques n'ajoutent pas une forme de convivialité sur son lieu de travail ?
Je pense qu'à partir du moment où on a un cadre à peu près sérieux, reprenons le fait religieux, qui est quand même un cadre, la loi de 1905, la laïcité, il y a quand même deux, trois choses en France qui sont importantes. Je pense qu'on peut avoir une discussion sur le fait religieux. Ça a eu lieu dans un certain nombre d'usines des métiers de l'automobile. Et c'est pas parce qu'on a abordé ce sujet que les choses, on n'a pas vu de grève importante ou de conflit important sur le fait religieux, par exemple, dans l'automobile en France. Et pour autant, ce problème a été géré. Et je pense qu'il est géré quand on le prend en face. Et que le prendre en face, ce n'est pas le nier, c'est l'aborder. Alors c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut se préparer à le faire. Alors là, je suis complètement d'accord avec vous. Tout le monde n'est pas forcément prêt demain matin à aborder ce genre de sujets qui sont extrêmement complexes. Pour autant, si on ne les aborde pas, ça peut quand même générer un problème. Je prends un exemple chez un de mes clients où on a une femme, au bout de 5 ans, on a une femme qui est venue pendant 5 ans voilée. Un jour, ça dérange une personne et ça commence à poser des problèmes. On ne l'a jamais abordé et on me dit qu'est-ce qu'on fait au bout de 5 ans pour l'aborder. Je pense qu'il aurait mieux valu l'aborder dès le départ, en échanger avec les autres, y compris avec cette collaboratrice, et dans un cadre légal qui est le cadre de la loi de 1905, avec les rénovations de ces dernières années. Et c'est pas très compliqué.
Il n'y a pas vraiment de rénovation, il n'y a pas de changement.
Non, mais il y a des changements sur l'application du voile. Donc voilà, c'est si on ne l'aborde pas, à un moment on aura un problème. Ça, c'est une certitude. Sur le fait religieux, j'entends. Après, sur les sujets politiques, et j'entends vos propos, je ne propose pas aux gens que je conseille de financer quelques sujets comme les Américains. C'est pas ce que je propose. Je propose d'en parler, ce qui n'a strictement rien à voir, et ce n'est pas usiter de sa capacité financière pour influencer le débat. C'est pas la même chose.
Jean-François Amadieu, en tant que sociologue du travail, les rythmes de travail, le monde du travail s'est profondément tendu ces dernières années, hein, indépendamment des débats politiques, la peur du chômage, les débats sur le temps de travail, sur le travail qui envahit tout aussi dans la sphère privée. Est-ce que vous pensez que tout cela est lié avec des tensions politique, des conversations politiques qui peuvent être plus tendues aujourd'hui au travail ou pas ? Est-ce que les salariés aujourd'hui lient davantage le débat politique et leurs propres conditions de travail ?
Oui, enfin, j'ai dit, si vous voulez, est-ce que c'est plus le cas aujourd'hui que c'était le cas par le passé ? Ça, je ne sais pas, parce que effectivement, si vous prenez la question de la sauvegarde de l'emploi, par exemple, qui est un sujet qui préoccupe beaucoup, les questions de pouvoir d'achat, au fond, ça a toujours été des sujets qu'on retrouvait. Je voudrais d'ailleurs dire que dans les campagnes, au fond, si vous mettez de côté les sujets sociétaux, sur les sujets classiques qui font toutes les élections présidentielles, c'est frappant, c'est toujours des sujets qui concernent, en effet, les entreprises, les salariés très directement, qui sont les salaires. la question du pouvoir d'achat, qui sont l'emploi. C'est les sujets principaux sur lesquels se gagnent d'ailleurs les campagnes présidentielles. Donc ça a toujours été comme ça. Donc, et plus le temps de travail. Mais c'est surtout salaire-emploi.
Donc, sur les 35 heures, c'est plus passionnel.
Ou les 35 heures. Mais non, je ne dirais pas que ça l'est plus. Mais effectivement.
Je suis assez d'accord.
Pas davantage. Mais ça a toujours été les sujets, c'est frappant, les sujets de gestion des ressources humaines sont les sujets des campagnes présidentielles à chaque fois. Mais vraiment.
Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Donc, voilà.
Et je suis assez d'accord avec
lui. Les DRH devraient être invités dans les meetings politiques. Merci à tous les deux, Jean-François Amadieu, sociologue du travail. Vous avez publié notamment le livre noir des DRH et François Hénus, vous êtes conseiller de dirigeant d'entreprise et vous-même chef d'entreprise. Vous voulez bien rester jusqu'à la fin de l'émission?
Oui. Sans problème.
Dans quelques instants, on donnera la parole au journal Marie-Claire qui se mobilise contre les crimes sexuels sur mineurs et qui demande l'allongement du délai de prescription pour punir ces crimes.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait du spectacle d'Andrea Bescon, Les Chatouilles. Cette danseuse comédienne, elle-même victime de viol enfant, met aussi en scène une pièce sur l'inceste à Paris, au théâtre Ciné 13.
Tu sais, Odette, je voudrais te demander quelque chose, mais j'ose pas.
Mais si, Gilbert, vas-y.
Non, je te jure, c'est con.
Mais je te promets, Gilbert, demande-moi, vas-y.
Tu voudrais bien jouer à la poupée avec moi? Tu sais quoi, on va aller dans ta salle de bain, mais attention, il faut le dire à personne, hein. Parce que moi, je viens jouer avec toi parce que tu es toute seule, hein. D'accord? Viens. Viens, ma puce.
Odette, si tu me l'avais dit, on serait pas là en train de parler, perdre du temps. Non, mais franchement, hein.
Quand il faisait tout ça, j'ai jamais rien dit. Bah ouais, forcément, j'avais sa langue dans ma bouche, alors je pouvais pas dire grand-chose. Après, il descendait sa main et il la plongeait. Puis avec ses doigts, il grattait fort, hein. Il appelait ça les chatouilles. Mais moi, quand même, ça me brûlait.
Nous sommes en ligne avec Marianne Mérès, qui est directrice de la rédaction du mensuel Marie-Claire. Bonjour.
Bonjour.
Votre journal féminin s'engage sur la pétition qui demande d'allonger les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. Pourquoi cet engagement de votre journal ?
Écoutez, il nous a semblé absolument fondamental parce que, vous le savez, depuis plus de 60 ans, on accompagne les femmes vers la marche pour l'égalité et pour leurs droits. Et on a, depuis plusieurs années, on recueille les témoignages de femmes qui ont été agressées ou violées enfants ou plus tard. Et en fait, on est face à un problème aujourd'hui qui est une méconnaissance des victimes et notamment d'un phénomène psychique qui s'appelle l'amnésie traumatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont agressées lorsqu'elles sont enfants et qui peuvent oublier pendant 10, 15, 20 ans qu'elles l'ont été tellement le choc a été violent et elles n'ont pas aujourd'hui la possibilité de porter plainte correctement puisque après 38 ans, ce n'est plus possible pour elles.
C'est ça.
Or, on sait aujourd'hui...
Les faits de viol sur mineurs sont prescrits au bout de 20 ans après la majorité de la victime, donc
exactement.
18 plus 20, eh bien ça fait bien 38. Après 38, c'est trop tard.
Voilà. Et nous, on veut, à Marie-Claire, que ce ne soit jamais trop tard. Parce qu'en fait, il y a des femmes qui, au cours d'une analyse ou d'événements qui sont frappants dans leur vie, se remémorent ce qu'elles ont vécu, réalisent ce qu'elles ont vécu, parce qu'elles n'avaient pas forcément les mots pour le mettre. Quand on est violé à 4 ans, 8 ans, 9 ans, on ne réalise pas forcément ce qui se passe. Et aujourd'hui, il nous semble absolument fondamental qu'elles puissent porter plainte, qu'elles puissent dénoncer leur agresseur et permettre aussi à d'autres victimes de le dénoncer à leur tour, et puis surtout pour cesser que cela continue.
Alors vous parlez des femmes, mais il y a aussi des petits garçons, bien sûr, hein, qui sont victimes d'agressions sexuelles ou de viols pendant leur enfance. À l'heure actuelle, il y a des pays comme le Royaume-Uni ou la Suisse qui ont rendu ces crimes sexuels imprescriptibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite dans le temps pour porter plainte. Quels sont les freins en France, finalement, du côté du législateur pour déjà commencer par allonger le délai de prescription?
C'est un peu justement mystérieux. Le frein contre l'imprescriptibilité, c'est de dire que, en gros, que si ça parvient trop longtemps après les faits, il n'y a plus de preuves, c'est très difficile à démontrer, donc que la victime ne pourra pas prouver qu'elle a été agressée.
Mais 30 ans ou 20 ans après, il n'y a pas plus de preuves 10 ans avant, on pourrait rétorquer.
D'une part, et puis ensuite, ce n'est pas parce qu'on peut penser qu'il n'y aura pas suffisamment de preuves qu'il ne faut pas qu'elle puisse porter plainte. À la limite, après, on le verra au procès s'il y a procès. Mais je pense que c'est fondamental que la victime puisse porter plainte, puisse dire qu'elle a été agressée. Et après, la responsabilité du procès, à la limite, c'est une seconde phase, mais qu'elle puisse déjà le dénoncer, le dire, et que cela soit reconnu, qu'elles soient entendues. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas entendues, les victimes, aujourd'hui, pas suffisamment. Et c'est ce qui nous est beaucoup remonté par le biais de témoignages qu'on a recueillis, si vous voulez. C'est-à-dire que, déjà, il faut un courage immense pour oser dire ce qui s'est passé, et que souvent, il y a le déni de la famille, il y a le déni de l'entourage, la parole de la femme, elle est souvent décrédibilisée, et c'est pour ça que nous, on souhaite qu'ils aient tout le temps possible pour réaliser ce qui leur est arrivé, pour pouvoir l'énoncer.
Et pour sensibiliser l'opinion, puisque vous vous êtes très clairement engagée dans ce combat, vous donnez la parole à des personnalités qui ont rarement, voire jamais parlé d'ailleurs de ce qu'elles avaient subi.
Exactement, je pense qu'elles sont mues par cette nécessité. Il y a Agnès B, effectivement, qui n'avait pas styliste. Parlé de son inceste, styliste, qui a subi un inceste à partir de 12 ans. Enfin, il y a quatre personnalités qui ont accepté, et je tiens vraiment à les en remercier.
Vous avez eu du mal à ce qu'elles acceptent?
Non, parce que je pense qu'elles ont souhaité être utiles.
L'opinion publique française est prête à ouvrir le débat de société là-dessus, vous pensez, aujourd'hui?
Écoutez, nous, pour l'instant, on en a 12 000 signatures de notre manifeste, ce qui est quand même un très bon chiffre pour le moment. Il y a beaucoup de femmes politiques, d'hommes politiques qui nous ont rejoints, d'actrices, de personnalités. On a Clémentine Autain, Aurélie Filippetti, Chantal Jouanneau, on a des philosophes, Raphaël Enthoven. Donc on sent quand même que c'est un sujet qui touche beaucoup les gens. Et vous savez, quand on sait que en Europe, il y a un enfant sur cinq qui est touché, c'est-à-dire par exemple que dans une classe française, si vous accompagnez vos enfants à l'école le matin, il y a 6 enfants dans la classe qui ont été victimes d'abus ou de violences sexuelles. Vous imaginez ce que ça représente. Ouais. Voilà.
Merci beaucoup, Marianne Mérès. Dossier, bien sûr, à retrouver dans le mensuel Marie-Claire, avec cette campagne Jamais trop tard. Merci à vous d'avoir été en ligne. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Néron, Romain Dubrac, Ludivine Amado. On se retrouve demain pour 7 milliards de voisins. Et dans quelques secondes, ce sera le journal sur RFI. Merci à vous tous. Merci, bien sûr, aussi à vous, les voisins, les voisines, à vos participations, à vos témoignages. Vous le savez, c'est vous qui faites l'émission aussi du lundi au vendredi. RFI.